on s'arrête maintenant sur ce phénomène extrêmement important, cette revue hebdomadaire qu'est l'Ordine Nuovo, qui est fondée donc toujours dans cette même conjoncture, au printemps 1919, hein, dans un contexte, dans un cadre où il s'agit très clairement de faire comme en Russie, hein, ce qui est un mot d'ordre, hein, des mobilisations et des manifestations de 1919-1920. Donc, Antonio Gramsci, avec Angelo Tasca, Umberto Terracini et Palmiro Togliatti, fondent l'Ordine Nuovo le 1er mai 1919. L'Ordine Nuovo, rassegna settimanale di cultura socialista. Et on voit que la dimension culturelle, l'idée de diffusion d'une culture socialiste est présente au premier plan, et ça va avoir effectivement une très grande importance avec... Alors, vous ne pouvez peut-être pas le lire parce que c'est en petit en haut à gauche, hein, ce mot d'ordre, ce programme. Istruitevi perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza. Agitatevi perché avremo bisogno di tutto il nostro entusiasmo. Organizzatevi perché avremo bisogno di tutta la nostra forza. Donc, s'instruire, s'agiter, se mobiliser et s'organiser. Ce mot d'ordre triple présenté avec un jeu dialectique entre la première et la deuxième personne du pluriel, qui est tout à fait singulière, hein, une injonction, donnée à qui ? On va dire d'abord et avant tout aux ouvriers et aux paysans. Voulu par affirmé par des militants politiques qui sont de jeunes, hein, encore de très jeunes intellectuels qui travaillent précisément sur cette alliance entre des intellectuels et prolétariat dans un cadre d'agitation révolutionnaire. Donc des intellectuels qui pensent que la culture est un élément déterminant de la transformation sociale. En tout cas, qu'il y a une culture socialiste, une culture ouvrière et révolutionnaire qui doit être développée, créée, répandue, et qui joue un rôle de premier plan dans la révolution. Il est clair aussi que ce journal, qui est aussi un programme, mais qui est aussi un cercle politique, hein, de manifestation, d'éducation, hein, de réunion. L'Ordine Nuovo vit et n'est pas seulement une publication. Hein, donc c'est une expérience politique totale, si vous voulez, qui va jouer un rôle décisif à l'intérieur même du Parti socialiste, dont vous avez compris que c'est une très grosse machine tiraillée entre différentes âmes et différentes positions politiques, hein, donc, au sein du Parti socialiste, pour y faire émerger ce que va être le Parti communiste, hein, ce que va être le parti donc, de cette gauche du Parti socialiste qui entend appliquer les directives de troisième internationale, donc l'internationale communiste, qui naît précisément justement en 1918-1919, essentiellement active à partir de 19. Et c'est toute cette expérience. Alors cette expérience, elle est soit le paradis perdu, soit le péché originel, comme vous voulez. Enfin, elle est l'expérience matricielle, fondatrice, autour de laquelle ne cesse de réfléchir Gramsci, sur laquelle ne cesse de réfléchir Gramsci dans les cahiers. Non pas que les cahiers ne parlent que de ça, bien évidemment, non. Mais c'est absolument décisif pour comprendre toute une série d'évolution de sa pensée ensuite dans les cahiers. Alors, dans un article intitulé « Democrazia proletaria » du 21 juin 19, hein, paraissant dans l'Ordine Nuovo du 21 juin 19, donc le journal est encore tout jeune, hein, un article qui n'est pas signé mais qui est rédigé par, conjointement par Gramsci et Togliatti, eh bien, l'Ordine Nuovo présente les commissions internes d'usine comme les centres de la vie prolétaire. Et si le travail politique nécessaire est correctement mené, hein, comme de futurs organes du pouvoir prolétaire, c'est-à-dire la version, une version italienne des soviets. L'idée est d'introduire ces conseils d'usine, ces soviets, ou en tout cas de transformer ces commissions internes d'usine en de véritables conseils d'usine. Le problème que doivent se poser les socialistes est directement lié avec donc, le mouvement social en cours, déchaîné par la guerre, hein, dit Gramsci, « come dominare le immense forze sociali che la guerra ha scatenato ». Les dominer ou, dit-il, les discipliner. Un verbe pas particulièrement sympathique, mais qui est un verbe qu'utilise souvent Gramsci. Hein. Discipliner les masses, discipliner l'action collective, afin de pouvoir transformer donc ces forces sociales en ossature d'un État socialiste. Alors, évidemment, dire tout cela, ça a du sens par rapport à quoi ? Par rapport au rôle traditionnellement conféré aux partis et aux syndicats, hein, aux deux principales organisations ouvrières. Et c'est par rapport à ça donc que doit être lu l'ensemble de ce texte. L'officina con le sue commissioni interne, i circoli socialisti, le comunità contadini sono i centri di vita proletaria nei quali occorre direttamente lavorare. Le commissioni interne sono organi di democrazia operaia che occorre liberare dalle limitazioni imposte dagli imprenditori e ai quali occorre infondere vita nuova ed energia. Oggi le commissioni interne limitano il potere del capitalista nella fabbrica e svolgono funzioni di arbitrato e di disciplina. Sviluppate e arricchite dovranno essere domani gli organi del potere proletario che sostituisce il capitalista in tutte le sue funzioni utili di direzione e amministrazione. Già fin d'oggi gli operai dovrebbero procedere alla elezione di vaste assemblee di delegati scelti tra i migliori e più consapevoli compagni. Sulla parola d'ordine, tutto il potere dell'officina ai comitati d'officina, coordinata all'altra, tutto il potere dello Stato ai consigli operai e contadini. Le grand mot d'ordre en Union soviétique en 17-18 était, hein, on se souvient, tout le pouvoir aux soviets. Un tale sistema di democrazia operaia, integrato con organizzazioni equivalenti di contadini, darebbe una forma e una disciplina permanente alle masse. Sarebbe una magnifica scuola di esperienza politica e amministrativa. Inquadrerebbe le masse fino all'ultimo uomo, abituandole alla tenacia e alla perseveranza, abituandole a considerarsi come un esercito in campo che ha bisogno di una ferma coesione se non vuole essere distrutto e ridotto in schiavitù. On a évidemment là un modèle d'organisation militaire, hein, qui est revendiqué, mais qui se veut démocratique, évidemment. Ogni fabbrica costruirebbe uno o più reggimenti di questo esercito, coi suoi caporali, coi suoi servizi di collegamento, con la sua ufficialità, col suo stato maggiore. Poteri delegati per libera elezione, non imposti autoritariamente. Une structure militaire, mais contrôlée par le bas et non par le haut. Attraverso i comizi tenuti nell'interno dell'officina, con l'opera incessante di propaganda e di persuasione sviluppata dagli elementi più consapevoli, si otterrebbe una trasformazione radicale della psicologia operaia. Si renderebbe la massa meglio preparata e capace all'esercizio del potere, si diffonderebbe una coscienza dei doveri e dei diritti del compagno del lavoratore, concreta ed efficiente, perché generata spontaneamente dall'esperienza viva e storica. Alors, ce texte, l'une des importants, enfin, il y a beaucoup de textes de cette époque-là qui pourraient être commentés dans le même sens, mais celui-ci est extrêmement important. Alors, pour toute une série de raisons, d'abord parce qu'il permet de voir à quel point l'activité de l'Ordine Nuovo, la réflexion menée par les responsables de l'Ordine Nuovo est immédiatement lié au mouvement en cours des conseils d'usine. D'autre part, parce que il met en place une stratégie, alors qu'on pourrait résumer, je ne sais pas si tu es d'accord, Jean-Claude, c'est-à-dire sur l'idée que on part d'un existant déjà qui sont les commissions internes qui existent dans les usines et on y prend le pouvoir de telle sorte que ça devienne de véritables conseils ouvriers d'usines à terme contrôlés par les ouvriers eux-mêmes. En réalité, ces commissions internes, sont limités par le pouvoir patronal et ont des fonctions qui sont essentiellement des fonctions d'arbitrage, des conflits à l'intérieur même des établissements, des usines et de discipline. Mais c'est déjà des lieux où s'exerce une première forme de démocratie ouvrière, puisque des ouvriers, des représentants, ils sont élus par l'ensemble des ouvriers. Et donc l'ensemble des ouvriers, ce qui veut dire que ce n'est pas seulement tenu par les syndicats. Donc là, il y a une véritable stratégie à cette époque-là de contourner les syndicats qui sont tenus par des réformistes.
C'est globalement. Quoi. Là, pour le coup, ils sont d'accord avec les anarchistes.
Et là, ils sont d'accord avec les anarchistes.
Ouais. Qui ne sera pas tout le temps le corps, mais là, ils sont d'accord.
Là, ils sont sur les mêmes positions.
Parce que les commissions internes, c'est des instances paritaires, en gros. C'est des instances paritaires officielles. Et il s'agit de les transformer, et les transformer par cette mobilisation générale. Quand il dit « Gli operai dovrebbero procedere alla elezione di vaste assemblee di delegati », ou bien l'endroit où il dit « il n'y aurait pas... » Il n'y aurait personne qui serait laissé à l'extérieur. Donc c'est vraiment l'idée que là, on arriverait à mobiliser l'ensemble des ouvriers par ce truc-là. Évidemment, il va s'opposer beaucoup à la ligne syndicale qui dit « mais non, c'est bon, c'est les ouvriers conscients ». Et les ouvriers conscients, qui a aussi ces bons arguments, les ouvriers conscients, c'est ceux qui sont adhérents au syndicat, qui paient leurs cotisations, etc., machin, et qui sont conscients de la nécessité de l'organisation de la classe ouvrière.
Alors, d'où l'insistance aussi sur la spontanéité. Alors, l'insistance sur la spontanéité, le passage se termine...
Cette idée qu'on pourrait encadrer les masses jusqu'au dernier homme.
Ouais.
Une quadrille de les masses fino all'ultimo.
Tous sont... concernés. Alors, l'idée de spontanéité, elle est importante aussi... dans la mesure où on la retrouvera, alors on la retrouve dans toute l'œuvre de Gramsci jusqu'à la fin des Cahiers de prison, et en particulier l'opposition spontaneità direzione consapé, voilà. Mais c'est pas une opposition gramscienne, c'est quelque chose qui traverse la totalité du mouvement ouvrier. C'est quelque chose que c'est une opposition qui va déterminer certains antagonismes. Alors, dès la première internationale, Marx et Bakounine s'opposent y compris sur ces mots d'ordre là. Et puis beaucoup plus récemment, alors là même exactement à ce moment-là, en 18-19, le mouvement spartakiste et donc la révolution allemande, avec Rosa Luxembourg, qui oppose la spontanéité des masses à une conception léninienne qu'elle critique vertement. Et ce qui va être très intéressant, alors dans toute l'activité de Gramsci, je pense, c'est que il s'attache, lui, à penser les deux choses ensemble, et à faire à faire la synthèse entre spontanéité et direction. En gros, il dit, dans de très nombreux textes, les opposer directement, c'est ne rien comprendre au processus, d'une part au processus révolutionnaire en acte, ne rien comprendre plus largement que ça à la politique, et aller vers l'échec. Et quand il revient sur ces questions-là, après, dans les cahiers, il revient en particulier sur les accusations, parce que les Turinois, hein, donc les Turinois au sens de Gramsci et ses camarades au sein de l'Ordine Nuovo, ont été attaqués, critiqués, au sein même du mouvement, bien sûr, et par des gens qui leur reprochaient une chose et son contraire, c'est-à-dire certains leur reprochaient d'être trop spontanéistes, hein, alors que d'autres leur reprochaient d'être trop volontariste, justement, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc c'est ce texte-là, hein, donc la note 48 du cahier 3, hein, Spontaneità e direzione con sapere, voilà, qui date de 1930. Il movimento torinese fu accusato contemporaneamente di essere spontaneista e volontarista o bergsoniano. Point d'exclamation, entre parenthèses. L'accusa contraddittoria analizzata mostra la fecondità e la giustezza della direzione impressa lì. Alors ça, c'est un truc typique, hein, chez les politiques, de dire si on m'accuse d'une chose et son contraire, ça veut dire que j'ai raison. Encore ce matin, j'en ai entendu un qui disait ça sur la radio. C'est pas très fort. Mais bon, chez lui, c'est fondé. C'est fondé par d'autres arguments. Questa direzione non era astratta, non consisteva nel ripetere meccanicamente delle formule scientifiche o teoriche. Non confondeva la politica, l'azione reale, con la disquisizione teoretica. Essa si applicava ad uomini reali, formatisi in determinati rapporti storici, con determinati sentimenti, modi di vedere, frammenti di concezioni del mondo, eccetera, che risultavano dalle combinazioni spontanee di un dato ambiente di produzione materiale, con il causale agglomerarsi in esso di elementi sociali disparati. Questo elemento di spontaneità non fu trascurato e tantomeno disprezzato, fu educato, fu indirizzato, fu purificato da tutto ciò che di estraneo poteva inquinarlo per renderlo omogeneo, ma in modo vivente, storicamente efficiente, con la teoria moderna. La teoria moderna, c'est une des périphrases pour dire le marxisme, le matérialisme historique, la philosophie de la praxis, la pensée de Marx correctement interprétée. Questa unità della spontaneità e della direzione consapevole, hein, vous voyez que l'usage des guillemets, hein, chez Gramsci, très très fréquent, qui demande très souvent à être commenté, qui évidemment, comme toujours avec les guillemets, indique une certaine prise de distance. L'idée, bon, ici, hein, tout simplement, que ce sont des concepts qui ne lui appartiennent pas, hein, qui sont des concepts du patrimoine commun. Aussi, a della disciplina e appunto l'azione politica reale delle classi subalterne in quanto politica di massa e non semplice avventura di gruppi che si richiamano alla massa. Trascurare e peggio disprezzare i movimenti cosiddetti spontanei, cioè rinunziare a dar loro una direzione consapevole, ad elevarli ad un piano superiore inserendoli nella politica, può avere spesso conseguenze molto serie e gravi. Alors, bon, c'est un texte qui permet de prendre conscience de la longue durée, en tout cas au sein du parcours de Gramsci, d'une question qui est absolument fondamentale et qui se dit à partir d'un certain nombre de mots, dont le mot discipline ou le mot éducation. Les mots instruction, les mots organisation, tous ces mots-là sont désignent le travail politique essentiel à ses yeux, qui est celui de la mise en place, de la création d'une volonté collective qui ne soit pas artificielle, donc qui parte parte de la conscience des masses telle qu'elle existe réellement, ou des mouvements au sein même de la classe ouvrière, tel qu'il préexiste avant même toute action du parti et du syndicat. Hein. Ce qui est en jeu là aussi, c'est toujours cette question-là, qui va être modifiée nécessairement dans le temps, puisque il y a évidemment une grande différence entre penser tout cela et théoriser tout cela à un moment où le Parti communiste n'existe pas encore, et le faire ensuite une fois que le Parti communiste existe, et non seulement une fois que le Parti communiste existe, mais une fois qu'on en est devenu le chef, hein, le principe reconnu en tout cas comme étant l'un des principaux chefs du Parti communiste. D'où le fait qu'il va devoir repenser entièrement le parti à ce moment-là. Et c'est aussi ce qui va expliquer le fait que une des questions absolument centrales, c'est la question des intellectuels. La question des intellectuels, pourquoi ? Parce que les intellectuels qui ne sont pas jamais à entendre comme ceux qui sont simplement ceux qui en savent plus que les autres parce que leur métier est un métier de type intellectuel au sens courant du mot, mais qui sont les intellectuels dans la mesure où ils sont ceux qui ont des charges de direction à quelque niveau que ce soit, hein, de direction d'autres hommes, de direction d'organisation, etc. Et là, ça c'est aussi le point commun qui est développé dès le moment de l'Ordine Nuovo, alors que le Parti communiste n'existe pas et alors que l'Ordine Nuovo est dans une certaine mesure conçu en opposition au parti qu'est le PSI à ce moment-là, et la question des intellectuels qui va devenir la question absolument centrale pour repenser le parti, qui sera le parti, parti communiste, dans les années 20 et surtout les années 30. Alors, voilà.
C'est juste c'est juste un tout petit point, mais peut-être on ne se rend pas forcément compte du fait que ce texte-là est un texte qui coupe avec toute une tradition de lecture de l'organisation du mouvement ouvrier, où précisément la question de la spontanéité des mouvements, mais ça dure sur la longue durée, hein, ça dure sur la longue durée, c'est vraiment, il y a peu de gens qui disent ce qu'il dit là, à savoir, il ne faut pas négliger, ou pire encore, mépriser les mouvements spontanés. Ça veut dire qu'en gros, c'est quelqu'un qui va s'intéresser à ces mouvements-là, même quand les autres disent « mais C'est pour ça que c'est complètement lié à la question qu'on a vue avant de la, des commissions internes et du fait que tout le monde doit voter dans ces conditions internes et qu'on ne doit laisser personne de la masse ouvrière en dehors de ce processus-là. Parce que là, il y a tout, et c'est toute l'idée de qu'est-ce que c'est un mouvement politique. C'est-à-dire que, mais vous, si vous regardez sur la longue durée, encore maintenant, on dit ça, c'est infra-politique. C'est infra-politique tant que personne essaye de faire en sorte que l'infra-politique devienne du politique. C'est ça qu'il dit. Et en gros, dans les marxistes de cette époque-là, il y a lui, il y a Rosa, la Rosa, même si il dit... Hein, il y a un moment où les discussions entre ces gens-là restaient des discussions entre gens qui s'aimaient. Il y a un moment où ça ne va plus être comme ça. Ça va être vraiment pas du tout. Il y aura plus du tout ce sentiment-là. Mais quand il parle, je sais pas si vous avez eu l'occasion de tomber sur Nel libretto della rosa, hein. Voilà, tu vois bien que ça. Parce que il y a quelque chose là qui joue sur voilà, être capable de sentir quelque chose qui vient des masses. Et certes, après ils arrivent avec l'outillage. Mais le premier truc, c'est de sentir qu'il y a quelque chose qui vient des masses. Et ça, il y a peu de gens qui, comme lui, le disent. Tôt, hein, parce qu'il le dit dès le texte de 20 sur les, enfin, qui est même de 19 sur les commissions internes, et il redit 10 ans après, hein, en y repensant. Ouais. Donc je crois que c'est un point qui fait qu'il est dans cette ligne là des marxistes s'intéressant aux marxistes, et il redira un truc comme ça quand il va réfléchir. Dans le cahier, si vous avez l'occasion de le lire quand même, parce qu'il n'est pas très gros, le cahier sur les classes subalternes, où il y a quelque chose qui dit exactement comme ça. C'est tellement dur, c'est tellement difficile qu'il y ait une initiative autonome des classes subalternes, que quand il y en a une, alors pour l'historien, là, lo storico integrale devrait absolument trouver que c'est une chose merveilleuse sur laquelle il faut se pencher, essayer de comprendre, etc. Mais c'est tellement dur. C'est tellement difficile que des classes subalternes naissent une initiative autonome. Parce que précisément, tout est fait pour qu'il n'ait pas cette initiative autonome. Quand on y en a une, voilà. Alors, le politique, là, l'historien, quand il regarde le passé, devrait être absolument trouvé. C'est la pépite d'or qu'on trouve dans l'histoire de l'humanité, quoi.
Et c'est ouais, non, mais c'est effectivement à ça aussi qu'il faut rapporter la référence très très fréquente aux hommes réels. Alors, ça paraît la palissade, ça paraît évident de s'intéresser aux hommes réels quand on s'occupe de politique dans un sens révolutionnaire, mais ça l'était peut-être pas tant que ça, et ça l'amenait lui à y être extrêmement sensible. Et par ailleurs, c'est quelque chose qui transparaît aussi beaucoup dans les lettres. Il y était extrêmement sensible, c'est-à-dire qu'il s'intéressait à tout ce qui faisait la vie authentique des gens. Alors après, faut peut-être pas non plus passer sous silence le fait que il y a un langage qui parfois nous laisse un peu gêné, quoi. Hein, educare indirizzare purificare da tutto ciò che di estraneo poteva inquinarlo. Aujourd'hui, on ne pourrait pas écrire des choses comme ça. Hein. Mais c'est aussi lié à une rhétorique organiciste qui est très présente chez Gramsci, et pas seulement chez Gramsci, dans la littérature politique et sociale de ces années-là, quoi. Hein, voilà. Bon.
Ouais.
J'ai mis deux, trois références à la question des hommes réels, parce que c'est une question importante. Hein. C'est vraiment un concept marxiste important. Quoi. Hein. Les moments où, précisément, on va au-delà de la question... c'est toute la question qui a resté très longtemps dans le marxisme. Est-ce que le marxisme est un anti-humanisme, est un anti-humanisme théorique? Question que Althusser a évidemment posé, Althusser, les Althussériens ont posé avec une force énorme en y répondant très clairement, le marxisme est un anti-humanisme théorique, point. Parce qu'il n'y a pas d'homme dans le marxisme, il y a des rapports de production, des forces productives, la contradiction entre les rapports de production et les forces productives, et c'est ça qui fait l'histoire du monde, c'est pas les hommes réels. Alors, voilà. Et pour dire, oui d'accord, je sais bien, parce qu'il avait un peu lu, enfin plus ses élèves que lui d'ailleurs, mais enfin bon bref, ils avaient un peu lu l'idéologie allemande et tout ça, et ils savaient qu'il y avait ça dans l'idéologie allemande, hein, les hommes réels agissant. Alors ils sont conditionnés, mais enfin, c'est des hommes réels. On part des hommes dans leur activité réelle. C'est à partir de leur processus de vie réelle que l'on représente aussi le développement des reflets et des échos idéologiques de ce processus vital. C'est-à-dire, dans l'idéologie allemande et dans ce qu'on a commenté tout à l'heure de la traduction de Gramsci, la préface de l'économie politique, il y a l'insistance sur les hommes réels et pas sur l'abstraction du fonctionnement social. Alors, c'est là que Althusser a eu ce coup de génie, qui dit la coupure épistémologique. Donc, la coupure épistémologique fait que, avant un certain moment, Marx n'est pas marxiste et donc n'est pas scientifique, et donc on prend que ce qui vient après, et qu'en particulier le Marx jeune, donc celui-là, celui de. Hein, celui même des thèses sur Feuerbach, etc., et ben, c'est d'avant, c'est de jeune hegelien. C'est pas le Marx scientifique. Hein. Mais vous voyez bien qu'un lecteur comme Gramsci, et son, vous voyez là, il y a deux passages que j'avais pris pour montrer ça, les hommes réels, hein, ils sont ce qu'ils sont réellement. Quoi. Voilà. C'est l'œuvre. C'est des gens qui ont des noms, des gens qui ont dont on peut avoir une impression immédiate sur leur vie, hein, qui à la fois dans l'ordre des noms et dans... dans des lettres, hein, là j'avais pris deux exemples pour montrer ça, et vous voyez bien que ça a à voir avec, voilà, avec cette thèse marxiste d'avant la coupure épistémologique de l'idéologie allemande qu'on vient de lire, hein, qu'on peut encore lire en haut là, hein, et que ça a à voir avec ça, quoi. Et c'est en ça que c'est une conception. Le marxisme, il n'y a pas un marxisme, hein, il y a une expérience historique longue et une expérience théorique longue de lecture de ça, etc. Voilà. Et lui, on voit bien qu'il est dans un côté qui n'est pas assimilable à... Il y en a d'autres qui ne sont pas assimilables à l'orthodoxie qui va être l'orthodoxie post-léninienne, hein. C'est clair qu'il n'est pas stalinien. C'est clair qu'il n'est pas stalinien. C'est clair qu'il est à côté, tout à fait à côté de ça, tout en étant le principal dirigeant d'un des grands partis communistes d'Europe occidentale. Ouais. Ouais.
Je sais pas si on
entend. Si, si.
Oui, c'est vrai qu'il parle d'homme réel, mais j'ai l'impression, en lisant rapidement le paragraphe, enfin, moi, je ne lui donne pas vraiment le même sens que celui que donne Gramsci à cette expression. Surtout quand je pense au début du cahier 11, quand il parle du sens commun. Et justement, il s'intéresse beaucoup à ce qu'il y a dans la tête. Alors que Marx et Engels, il parlait d'hommes réels comme d'individus qui sont pris dans un système social précis avec une relation économique.
Comme de gens qui sont au travail.
Oui, voilà. Donc il parle de relations matérielles, économiques. Alors que Gramsci s'attache vraiment à ce qu'il y a dans la tête des gens, et c'est ça qui est vraiment fascinant et qui peut peut-être modérer un peu ce choc-là quand on lit l'éducation, l'encadrement et tout, parce que finalement Gramsci nous dit que tout homme est philosophe. Donc Donc c'est vrai qu'il y a le sens commun, on a plein d'idéologies, plein de trucs irrationnels qui sont incrustés, mais il, enfin, j'ai l'impression, après c'est une première lecture, mais j'ai l'impression qu'il a, il a aussi une énorme confiance dans la capacité de, des êtres humains de, justement de faire le tri, d'avancer, de s'éduquer même par eux-mêmes. Et ce que justement les marxistes orthodoxes, je mets des guillemets parce que c'est très bien, n'ont pas la mesure et voient les ouvriers comme des pions finalement.
Écoute, non mais lis le texte de l'idéologie allemande. Là, il y a une des lignes très très existantes chez Marx et Engels. Parce que Engels, il commence par la situation de la classe ouvrière anglaise, et je peux te raconter que voilà, c'est du vécu, hein. C'est du vécu. Ce qu'il raconte, c'est du vécu. Je veux dire, après, je sais pas, vous avez vu le jeune Marx, ce film?
Non.
Non. Quelle horreur. Bon, ouais, non, mais je veux dire, on voit bien ça aussi. C'est-à-dire, il y a un Marx et un Engels qui s'intéressent vraiment aux hommes en chair et en os. Si vous êtes un peu, un tout petit peu en avance dans vos lectures de Gramsci, vous l'avez trouvé l'expression. Hein, elle vient de là, elle peut venir de là. Il n'y a pas une coupure là. Après, il y a les interprétations qu'on fait. Je veux dire, l'interprétation de la préface de l'économie politique, un truc fondamental. Crouch disait, voilà, c'est des apparents. Vous, pour vous, les marxistes, tout ce qui est droit, philosophie, etc., c'est des apparences. Vous êtes vraiment des bonnets, etc. Vous avez mis l'économie à la place de Dieu, etc. Voilà. Et bon, c'est une lecture qu'on peut faire. C'est pas forcément du tout la lecture de Marx et Engels, qui ont un vrai intérêt pour les hommes en chair et en os, hein, et les hommes dans leur activité réelle, dans leur processus de vie réelle, et que ça, c'est des choses qui peuvent permettre à des gens comme Gramsci, qui après... Voilà, je pense que c'est vrai qu'il a un rapport aux gens. Enfin, il y a une série de trucs, c'est à la con ce que je vais vous dire. C'est des trucs de psychologie à deux balles. Mais qu'il a un vrai rapport d'amour avec les gens. Qu'on sent dans les lettres, enfin. Si vous avez vu les lettres. Parce que, je veux dire, il y a quand même ça aussi, quoi. Quand même, on est des littéraires et pas seulement des théoriciens. Et quand on lit ces lettres-là, on voit bien qu'il s'intéresse, qu'il voudrait voir ses gosses, qu'il voudrait voir les gosses de sa sœur. Et puis le jeune ouvrier qui lui parlait tout le temps du Japon, qui disait « Ah, j'ai pas pu dormir cette nuit parce que je me demandais ce qu'allait faire le Japon. » On sent ça. On sent que dans un texte comme... c'était un texte théorique fondamental, c'est les notes sur la gestion méridionale, et donc « Alcunité, Milagrosione méridionale » et après publié comme ça. Il te raconte toutes ces séries d'histoires, et à un moment... Enfin, c'est de la théorie, et à un moment donné, il te raconte une histoire. Il avait en tête le texte. Il raconte le bloc agricole, machin, la forte ossature des grands intellectuels, Justino Fortunato. Hein, et il te raconte l'histoire que voilà, on envoie un camarade sarde discuter avec un soldat sarde, et le soldat sarde dit ah non non, moi je sais ce que c'est les pauvres. Ici il n'y a que des riches. Hein, quand il raconte cette petite histoire qui est hilarante à la fois, et à la fois qui dit, hein, vous l'avez en tête, non, non, bref, à Turin, on envoie la brigade à Sassari, parce que comme c'est les Sardes, ils ne se comprennent pas avec les Piémontais, etc., ils vont pouvoir empêcher les grèves de dégénérer, etc. Donc eux, ils ont des Sardes, les communistes, enfin, ils en ont deux ou trois, qui les envoient discuter avec les mecs de la brigade à Sassari. Et il leur dit, mais pourquoi vous êtes venus, etc. Ils ont dit, ouais, on est venus là pour lutter contre les signores. Mais c'est pas les signores, c'est les ouvriers, etc. Les pauvres comme toi, etc. Non, il dit, non, non, moi je sais ce que c'est, les pauvres. Je gagne tant. Enfin, voilà, et Zapatero, nous on sait ce que c'est. On n'a pas de chaussures, on n'a pas de trucs, etc. On sait ce que c'est ici. Ils ont tout, ils gagnent, je sais pas combien, etc. Alors l'autre, il dit, mais moi, je suis aussi un ouvrier, je suis sarde aussi, comme toi, et je suis pauvre. Il dit, ouais, mais toi, t'es pauvre parce que t'es sarde, c'est pas parce que... Et elle dit, écoute, s'il y a une...
s'il y a une manifestation là, etc., et que tu me trouves en face de toi, tu vas me tirer dessus. Et on s'arrête et il fait senti, la prossima volta tu dovresti restare a casa. Il répond ça et il fait une ellipse et il dit un mois après, on l'a retiré. Ils sont arrivés applaudis par les bourgeois qui leur chantaient des chansons patriotiques, et on les a fait partir un mois après. C'est-à-dire qu'il fait l'ellipse sur ce qui a évidemment été fait du travail politique de compréhension par les gens de la brigade, etc., de ce qui se passait, etc., qui faisait qu'au bout d'un mois, ils étaient plus sûrs et qu'on les a retirés du terrain. Mais c'est pas ce qui l'intéresse, c'est de raconter cette histoire-là qui est, hein, voilà, qui est une vraie histoire de rencontre entre deux individus qui se parlent et qui essayent petit à petit de s'approcher, de se comprendre. Et il me semble que c'est très représentatif de son approche. Hein. Très représentatif. Ouais, c'est pour ça que ça vaut la peine de l'étudier, parce que c'est une autre... Hein, c'est comme ça vaudrait la peine, si on était germaniste, d'étudier Benjamin, je ne sais pas, hein, ou des gens comme ça, mais qui sont justement... Des gens qui sont dans ce courant-là, incontestablement, du marxisme, du communisme, etc., mais qui en représentent une autre possibilité de compréhension, quoi, une autre voie possible. Après, voilà, c'est pas lui qui a gagné, hein. Mais bon, mais ça vaut la... Ça vaut la peine de regarder après. Après ce moment d'émotion,
tu veux enchaîner avec les...
Non, c'est bon, vas-y.
Tu veux enchaîner avec le rôle de Gramsci dans les débats du Parti socialiste italien?
Non, caro.
Ouais. Et alors, c'est ça, c'est-à-dire que c'est quand même. Il y a un peu une mélasse là, pas forcément, c'est pas ce qui fait partie des choses les plus passionnantes en réalité, les conflits au sein du Parti socialiste, la ligne qui gagne un temps, puis qui gagne plus ensuite, au sein du nouveau Parti communiste, etc. Mais il faut forcément en passer par là aussi. On va faire ça rapidement, essayer voilà, de le faire ça. Le plus clairement possible.
Et clair, hein,
voilà. Clair. Alors. En gros, à la veille de la création du Parti communiste, donc en 1920 surtout, 1920, on a, bon, vous avez au sein du Parti socialiste, vous avez plein de choses, vous avez surtout, vous avez toute la partie des réformistes, etc. Mais ceux-là, évidemment, c'est les ennemis internes, donc ceux-là, on n'en parle pas. Mais vous avez plusieurs courants. Hein. Un courant qui est majoritaire, qui est celui dit des maximalistes, qui est le courant de Serrati. Hein. Alors, qui est favorable... L'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, c'est est-ce qu'on adhère ou est-ce qu'on n'adhère pas à la Troisième Internationale, donc à l'Internationale communiste. Et donc, l'idée qu'il faut appliquer dans le pays, les directives, hein, de l'Internationale communiste qui sont, dès le début, dirigées, évidemment, par les Russes, essentiellement. Alors, Serrati et les maximalistes sont favorables à l'adhésion internationale communiste, mais ils veulent garder un PSI complet, intègre, si vous voulez, et donc ne pas exclure, ne pas rejeter les réformistes. Par rejeter les réformistes. Premier courant. Deuxième courant, le courant dit abstentionniste de Bordiga. Abstentionniste parce que l'idée, c'est de surtout pas faire le jeu du pouvoir bourgeois et donc on ne participe pas aux élections et au système parlementaire. En gros, c'est les communistes. Alors, ils sont majoritaires chez les communistes méridionaux et ils sont très implantés
à Naples notamment, hein, où est publiée la revue Il Soviet. Et puis il y a les Turinois de l'Ordre des Noirs que l'on connaît. Alors, quelle est la position de l'Ordre des Noirs et de Gramsci plus exactement? Alors, il y a un texte, pour en savoir un peu plus, qui est important, qui est le texte du 8 mai 1920, intitulé « Per un rinnovamento del Partito Socialista ». Hein, on est encore à un moment où on pense pouvoir faire tout cela au sein même du parti socialiste. Donc c'est un texte qui est présenté par la section socialiste de Turin, donc au Conseil national du Parti socialiste à Milan en avril 1920. On a là donc 9 thèses qui font le point sur la situation italienne telle que la voit Gramsci et ses camarades.
Parce que ah, il a bougé, là. Putain, c'est fini. Voilà.
C'est bon, ouais. T'as rien fait. Pauvre. Alors, donc la thèse numéro 1, la situation est révolutionnaire car la question de la propriété des moyens de production est posée par les luttes des ouvriers et des paysans. Thèse numéro 2, en face, gli industriali e terrieri hanno realizzato il massimo concentramento della disciplina e della potenza di classe, e donc ils entendent mettere il tallone sulla nuca della classe operaia. Thèse numéro 3, par conséquent, la fase attuale della lotta di classe in Italia è la fase che prevede o la conquista del potere politico da parte del proletariato rivoluzionario per il passaggio a nuovi modi di produzione e di distribuzione che permettano una ripresa della produttività o una tremenda reazione da parte della classe proprietaria e della casta governativa. Alors, le langage est assez... assez classique et orthodoxe, mais il n'en décrit pas moins, de façon assez réaliste, une situation en cours qui va effectivement donner lieu, d'ici pas très longtemps, à la tremenda reazione della classe proprietaria. Nessuna violenza sarà trascurata per soggiogare il proletariato industriale e agricolo a un lavoro servile. Si cercherà di spezzare inesorabilmente gli organismi di lotta politica della classe operaia, Partito Socialista, e di incorporare gli organismi di resistenza economica, i sindacati e le cooperative, negli ingranaggi dello Stato borghese. Et on a les thèses 4, 5 et 6 qui développent donc l'idée que gli organismi direttivi del Partito Socialista hanno rivelato di non comprendere assolutamente nulla della fase di sviluppo che la storia nazionale e internazionale attraversa nell'attuale periodo, e di non comprendere nulla della missione che incombe agli organismi di lotta del proletariato rivoluzionario. Parmi donc toutes ces critiques, notamment l'idée le reproche qui est fait d'une absence complète de politique éditoriale, hein, et donc qui se relie toujours à cette idée d'une la nécessité de mettre en place une véritable culture socialiste et une action culturelle forte. Voilà, alors, les conclusions de toutes ces thèses, c'est qu'il faut exclure du parti les non-communistes et fonder un parti communiste, qui soit il Partito del Proletariato Rivoluzionario, che lotta per l'avvenire della società comunista attraverso lo Stato operaio, un partito omogeneo, coeso, con una sua propria dottrina, una sua tattica, una disciplina rigida e implacabile. Alors, c'est cette position-là de Gramsci, hein, parmi toutes les positions qui se dessinent, hein, et s'affirment dans le courant de l'année 1920 essentiellement, hein, qui sera considéré, enfin, qui est considéré à ce moment, enfin au même moment, comme étant la plus légitime, la plus en accord avec les directives de l'international communiste, par Lénine lui-même, hein, comme Lénine le précise dans le rapport sur les tâches principales de l'international communiste, qui date donc de juillet 1920, et comme Gramsci le redira par la suite, hein, y compris dans les cahiers. Donc, Ordine Nuovo, adoubé comme étant les léninistes les plus orthodoxes. Bon, peut-être pas lire le rapport de Lénine, si. Enfin, c'est pas indispensable. Hein, c'est pas indispensable. On va terminer là pour aujourd'hui sur la création du Parti communiste. Donc, en
cinq minutes pour le Parti communiste
du congrès de Livourne. Donc en janvier 21, du 15 au 21 janvier 21. Voilà, l'idée c'était de réussir à faire en sorte que les communistes deviennent majoritaires, que le nouveau parti soit, en gros, prenne l'ensemble de la gauche et du centre du parti, mais les communistes, on va dire, donc les Bordiguiens et les Turinois, ne réussissent pas à convaincre les maximalistes de Serrati d'exclure les réformistes, d'où le fait que la fraction, alors, appelée la fraction communiste d'Imola, hein, dû au fait que un pré-congrès rassemblant uniquement les communistes à Imola en novembre 1920, cette fraction communiste d'Imola qui rassemble donc les bordiguistes et les Turinois, est mise en minorité au congrès de Livourne en janvier 21. Il y a un peu moins de 60 000 voix pour eux, contre un peu moins de 100 000 voix pour les maximalistes. Et on a donc la scission, hein, et la création du Parti communiste d'Italie, section de la Troisième Internationale. Voilà. Parti communiste nouvellement créé, qui est donc de loin contrôlé, enfin, contrôlé et de beaucoup, hein, par les bordiguistes. Voilà. C'est à ce moment-là aussi que l'Ordine Nuovo est recréé, cette fois-ci comme quotidien, hein, que plusieurs quotidiens défendent à ce moment-là la ligne du nouveau parti communiste. Alors, qu'est-ce qui différencie principalement, essentiellement, Bordiga, les bordiguistes des autres? Alors, on l'a dit déjà, notamment le fait qu'ils soient abstentionnistes, ça c'est une première chose, ce que ne sont pas les Turinois, et qu'ils refusent très nettement les positions de l'international communiste. Et les positions de l'international communiste, les positions de Lénine à ce moment-là, c'est d'abord et avant tout celle du Front unique ouvrier, l'idée selon laquelle il est indispensable de nouer des alliances qui soient D'une part, des alliances politiques avec d'autres forces de gauche, y compris non révolutionnaires, y compris les réformistes au nid, pour conquérir la majorité du prolétariat, première chose. Et puis, le deuxième aspect du Front unique, donc, première chose avec laquelle les Turinois, enfin, surtout Gramsci, Gramsci d'abord et avant tout, est parfaitement d'accord. Et deuxième chose, Front unique, là, à un niveau plus largement social et pas seulement politique, ouvriers et paysans, sur lequel l'international, Lénine, à ce moment-là, l'international et Gramsci vont insister beaucoup. Voilà. On peut terminer par deux remarques. La première, c'est que quelques temps plus tard, Gramsci va interpréter la stratégie de Lénine dans toute cette histoire comme étant celle de la nécessité, en gros, la nécessité de se séparer pour s'allier. Hein ? Il fallait, d'un côté, créer le Parti communiste et en éjecter les réformistes. L'international communiste et Lénine auraient voulu que Serrati en fasse partie, que le Parti communiste soit majoritaire, en réalité, soit ce que serait devenu le Parti socialiste lui-même. Mais en même temps, il ne s'agissait pas de séparer pour les combattre, mais de séparer pour s'allier dans une optique de ce qui s'appelle déjà en langage léniniste et qui va s'appeler de plus en plus en langage gramscien, une perspective hégémonique, d'hégémonie sur l'ensemble du prolétariat et des classes alliées au prolétariat, c'est-à-dire essentiellement les paysans. Première chose. Et deuxième chose, quand Gramsci revient sur toute cette période absolument cruciale de la création du Parti communiste, Gramsci écrit que Lénine avait compris, Lénine aveva compreso che occorreva un mutamento dalla guerra manovrata applicata vittoriosamente in Oriente nel 17 alla guerra di posizione che era la sola possibile in Occidente. Ce jeu des concepts, là encore, ces métaphores militaires comme il y en a beaucoup dans la langue politique communiste de l'époque et notamment dans celle de Gramsci, entre guerre de mouvement, guerra manovrata, sur le modèle de la guerre rapide, violente, éclair, qui conduit à prendre des positions par des actions armées très fortes, qui dit essentiellement ce qu'a été la Révolution d'Octobre, guerre de mouvement. Eh bien, en quelques années, l'écart des années de 17 à 18, 19, 20, 21, et l'écart des lieux aussi, le passage de l'Orient à l'Occident, de la Russie à l'Europe de l'Ouest, impliquait de passer à une toute autre stratégie qui était celle de la guerre de position. Et cette guerre de position dit historiquement ce phénomène donc du front unique et du nouveau travail de ce nouveau parti. Voilà. On s'arrête là.